Ils se protègent sous leur tonsure et revendiquent leur petite calotte. Sans doute pour eux que c'est plus sûr que nous laisser mettre des capotes. Pas la peine d'avoir son certif pour nous faire docilement gober. Satan et ses repositifs, comme tous ceux qui l'ont bien cherché. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Le seul virus qui soit bien vu, c'est l'église, c'est la religion. Fais gaffe à toi si tu l'as plu. On te pardonne mal ta guérison. Ces malades là sont sanctifiés. Au ciel, y a plus de phase terminale. Et martyr, c'est bien mieux payé que de travailler seul à l'hôpital. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Hey. Dis monsieur, je te crois pas. T'oublies qu'aujourd'hui c'est dimanche. Jamais la Vierge n'avortera. On la fête sainte, pas faiseuse d'ange.
Donc vous l'aurez peut-être compris, puisqu'il s'agissait d'une chanson clairement féministe, vous êtes bien sur une émission féministe, donc c'est dégenré, avec pas mal de retard.
Donc toutes nos excuses aux auditrices et aux auditeurs qui étaient à l'heure au rendez-vous. Donc voilà, hein, la neige, c'est la faute à la neige. Et donc ce soir, comme vous l'avez peut-être aussi compris en écoutant la première chanson, donc c'était Agnès Bille avec... la Sainte Vierge avortée. Ce soir, on va parler d'avortement. On va en parler un peu différemment que d'habitude. On va en parler en partant de l'intime, ce qui, évidemment, signifie aussi aller vers le politique. Mais voilà, donc ce soir, on est cinq dans le studio. Et on va peut-être déjà commencer par se présenter.
Mais donc, voilà, du coup, c'est partir de l'intime, mais pour amener une question un peu tout au long de cette émission aussi, c'est qu'est-ce que ça signifie, légiférer sur le corps des femmes? Alors, légiférer, c'est passer des textes de loi, adopter des lois, tout ça, puisque autour des questions d'avortement, il y a bien cette question, c'est tout ça, c'est cette pratique de femmes est réglementée par des lois. Et donc, on va pouvoir questionner tout ça à nous cinq.
Et tout au long de l'émission, on va jongler entre les idées, les paroles, les anecdotes, parce que cette histoire autour de, enfin, toutes ces histoires d'avortement, toutes ces anecdotes-là, c'est aussi ça qui font l'histoire des femmes et l'histoire de l'avortement. Donc, ça nous semblait important de lier tout ça. Donc, maintenant, on va pouvoir se présenter. Donc, il y a Leïla et Nicolène à la technique, donc Hélène et Marina au micro. Et nos invités, donc, je vais vous laisser vous présenter.
Alors, bonsoir, moi c'est Myriam. Je suis là ce soir parce que j'ai un passé d'avorté il y a un petit moment maintenant, c'était il y a plus de 10 ans. Mais bon, je vous raconterai ça un tout petit peu plus tard. Et puis, c'est quelque chose que j'avais jamais partagé ou discuté avec des amis ou de la famille ou des proches. Et puis un beau jour d'août ou de début septembre de cette année, dans ma boîte aux lettres à Pommiers-la-Placette, je reçois une petite brochure, enfin on reçoit, nous de la colocation, une brochure qui parle de l'avortement justement, de l'intime au politique. Et puis voilà, ça a lancé un petit peu des réflexions dans ma tête et puis autour de moi. Je suis allée discuter avec un groupe de femmes qui se rencontrent en ce moment un petit peu sur l'agglomération autour de ces sujets. Et puis la dernière chose en date qu'on ait faite ensemble, c'est regarder un film qui s'appelle « Regarde, elle a les yeux grands ouverts », mais je pense qu'on en reparlera un petit peu après aussi.
Voilà. Et donc
Marion,
voilà.
c'est moi qui ai glissé la petite brochure qui est arrivée jusqu'à Pommiers-la-Placette. Et j'ai aussi vécu un avortement et j'ai souhaité exprimer tous mes ressentis, tout ce qui s'était passé à l'intérieur de ma tête et de mon corps, parce que ça a été une période assez dure, assez trash, assez... Enfin voilà, une nécessité de parler, de rendre public, de communiquer et voilà. Voilà.
D'accord, et Virginie donc
Donc moi je suis étudiante en médecine et j'ai été amenée à rencontrer Marion au travers d'un projet associatif qu'on a créé avec une amie, Sophie, et le soutien d'étudiantes en pharmacie. Et c'est ainsi que j'étais amenée à lire la brochure qui m'a beaucoup parlé, moi en tant que futur médecin et en tant que femme. Et c'est pour ça que je suis là avec vous ce soir.
Donc vous l'aurez compris, deux outils auxquels on va pas mal se référer tout au cours de l'émission. Donc une petite brochure de l'intime au politique. Voilà, qui va circuler. On vous donnera un peu peut-être en fin d'émission les références, comment trouver des ouvrages, tout ça. Et donc un film, Regarde, elle a les yeux grands ouverts. Mais on voulait d'avance exprimer peut-être que cette émission ne va pas être une émission pratique sur l'avortement. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler directement de quelles techniques sont mises en place, de quels centres pratiquent les IVG, voilà, on ne va pas être vraiment là-dedans. Mais pour ça, il y a le planning familial.
Alors le planning familial que vous pouvez retrouver soit par téléphone au 04 76 87 94 61, soit à pied au 30 boulevard Gambetta, ou alors derrière votre ordinateur au www.planning-familial.org. Et il y a vraiment beaucoup d'informations pratiques et aussi des personnes à l'écoute à cet endroit-là.
Voilà, et le site est assez bien renseigné, je trouve, aussi sur comment ça se passe, l'IVG et tout, les histoires de délai, tout ça, donc voilà. Et aussi, on avait fait une émission il y a un an à peu près sur l'avortement avec justement deux membres du planning familial de Grenoble, et, dans lequel on était plus dans des détails techniques, et cette émission, elle est trouvable sur Internet, téléchargeable sur Indie Media Radio, sur le site d'Indie Media Radio. Voilà, donc si dans un moteur de recherche, vous tapez dégenré, vous pouvez trouver... parmi toutes nos émissions, celle-là, l'année dernière, avec plus des détails techniques.
Donc, avant de passer en fait, un petit historique quand même, parce que voilà, toutes ces histoires justement de lois autour de l'avortement, eh ben, c'est aussi fait de lutte de femmes, tout ça. Donc Marion va nous retracer un petit peu cette chronologie-là. Et donc avant, on se fait une petite pause musicale.
Et du coup, on va écouter une chanson qui s'appelle « En cloque ». Et tout au long de l'émission, on va passer plusieurs chansons qui ont un petit son vieillot, comme ça. Et donc, c'est des chansons directement venues des années 70, de l'époque où les femmes luttaient pour pouvoir avorter sans risquer la tôle ou des peines. Enfin bref, voilà. Et donc, ou un peu des petites chansons féministes de l'époque. Donc, celle-là s'appelle « En cloque ».
J'étais en cloque, il m'a dit tu sais, moi je m'en moque. Le 10 du mois, je m'en vais à l'armée, j'ai pas l'instinct de paternité. Quand je leur ai dit j'étais en cloque, mon père m'a flanqué une taloche. Ma mère m'a dit faut te marier. Mais moi je voulais le faire passer. C'est là qu'on se retrouve dans l'illégalité. C'est là que l'on découvre les lois du porte-monnaie. La tige de persil, passe-moi une aiguille. La sonde qu'on se passe, faudrait pas qu'on y passe. Pareil dans les cliniques, elles ont même la télé. C'est pour les gens afriques, c'est pas pour ton budget. Pourtant moi la Hollande, je suis bien allée. Qu'il y a des canaux pour se promener.
On se promène là-bas au ventre, dans la crainte de la prison. Quel beau rêve pour nous les femmes d'avorter dans ces conditions. On se promène là-bas au ventre, dans la crainte de la prison. Ceux qui sur nos ventres font des lois devront un jour écouter notre voix.
Un petit historique de tout autour de la législation de l'avortement en France. Alors, démarrer avec le Moyen-Âge. Et oui, on retourne au Moyen-Âge où là, on a les théologiens, chrétiens qui ont débattu de l'âme du fœtus, c'est-à-dire de la date de l'animation. Elle fut fixée d'abord à 40 jours pour les garçons et 80 jours pour les filles. Mais c'est sous Charles Quint, en 1532, que la Constitutio Criminalis Carolina fixe la date d'animation du fœtus au milieu de la grossesse, soit dès que la mère perçoit des mouvements. C'est en 1558 que le pape Sixte Quinte condamne de façon formelle l'avortement, quels qu'en soient les termes. Et c'est à la Renaissance toutefois qu'on voit apparaître la notion d'avortement médical en cas d'hémorragie grave, seule indication en France jusqu'au XIXe siècle. En 1810, c'est le Code Napoléon, cette espèce de catastrophe civile pour les femmes. Donc j'en rappelle quelques termes, interdiction d'accès aux lycées et aux universités, exclusion totale des droits politiques, le devoir conjugal est une obligation, pas de viol entre époux, etc. Donc c'est sous ce code-là qu'on met en place une condamnation sans distinction. Quiconque provoque l'avortement d'une femme enceinte avec ou sans son consentement au moyen d'aliments, de drogues, de médicaments, par violence ou d'autres moyens, est puni de prison. Et c'est en 1920, donc pas si loin que ça de nous, qu'il y a l'adoption de la loi qui réprime la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle. Une loi qui, en 1942, fera de l'avortement un crime contre la sûreté de l'État, donc passible de la peine de mort. Et il faut se souvenir aussi que la dernière femme à qui on a coupé la tête, c'était en 45, pour avoir pratiqué 1945, pour avoir pratiqué des avortements. Encore moins si loin que là que nous. En 1956, c'est là que débute de grands mouvements pour la femme. Donc il y a la naissance du mouvement français pour le planning familial, qui se crée dans le but de légaliser les moyens anticonceptionnels. Donc c'est aussi une manière de se rendre compte du poids de l'ignorance et du silence sur les comportements sexuels exercés sur les femmes. En 67, on arrive au droit à la contraception. En 69, il y a la création de l'association pour l'étude de l'avortement, création du mouvement de libération des femmes, du groupe d'information santé. Donc c'est un peu tous ces mouvements qui se créent après 68. On a en 71 la parution de l'appel des 343 avortés, avec plein de célébrités à l'intérieur pour tenter de faire entendre que l'avortement est pratiqué depuis toujours et continue à se pratiquer. En 72, on a deux événements importants qui sont le procès de Marie-Claire à Bobigny qui met sur la place publique et au niveau du droit, etc., que l'avortement, enfin la loi de 1920 n'est plus possible, ne peut plus être appliquée. Et en 72, on a l'arrivée de la méthode Karman. Donc la méthode Karman, c'est l'invention d'une petite canule si fine qu'elle peut être introduite dans l'utérus sans risque de blessure. Donc elle est conçue, équipée à son extrémité de toutes petites parties râpeuses pour pouvoir délicatement gratter l'intérieur de l'utérus et de détacher le fœtus en une vingtaine de minutes. Elle permet de remplacer toutes ces techniques dont on entendait parler, aiguille à tricoter, pompe à vélo, persil, etc. Toutes méthodes difficiles, dangereuses. Et il faut savoir que la méthode Karman, c'est la méthode qui est utilisée aujourd'hui encore.
Donc en 72.
Donc elle est arrivée en 72, l'avortement n'est toujours pas légalisé. En 73, on a la création du mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, donc le MLAC. Le MLAC, c'est un mouvement qui est donc créé en 73 pour une information sexuelle qui cesse de faire de la procréation le seul but de la sexualité, pour la liberté de la contraception sans discrimination et pour la liberté de l'avortement. Ce mouvement conjugue sur le même mode action pratique, action politique, pratique subversive, pratique politique, avortement clandestin et message politique. Ça fédère donc le mouvement du planning familial, le groupement d'information santé, le mouvement des femmes, des syndicats et des mouvements d'extrême gauche. Donc toute une agitation pour sortir des brochures, des films, avortement mode d'emploi, organiser des voyages en Angleterre. Toute une pratique illégale donc de l'avortement, mais rendue publique pour créer un état de fait face à l'inertie générale et persistante. Voilà, en 1974, on a les premiers remboursements de la contraception. Et le 17 janvier 1975, la loi Veil, qui suspend donc la loi de 1920 qui réprime le droit à l'avortement. En 1977, il y a le procès du MLAC, donc le Mouvement de Libération de l'Avortement et de la Contraception d'Aix-en-Provence. Un procès suite à... Donc c'est plusieurs femmes qui sont inculpées et jugées pour avoir pratiqué elles-mêmes des avortements malgré la loi Veil. Leur lutte, leur combat, leur discours, c'est qu'elles elles continuent à pratiquer des avortements à domicile parce que selon elles, l'accouchement comme l'avortement peuvent et doivent être contrôlés et voulus par les femmes elles-mêmes. À partir de 80, on a des modifications de la loi Veil qui arrivent par rapport à certaines conditions revisitées aux luttes qui continuent. Donc, entre autres, en 82, le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale. En 88, l'autorisation de mise sur le marché de la RU486 qui permet l'avortement médicamenteux. En 91, on a la levée d'interdiction de publicité sur les moyens de contraception. En 93, on a l'adoption d'une loi sur le délit d'entrave à l'IVG pour les anti-IVG. En 2000, on a la pilule du lendemain qui est en vente libre dans les pharmacies. Et c'est important de le dire parce qu'on n'en a peut-être pas forcément non plus très connaissance. Et le 4 juillet 2001... l'IVG est autorisée jusqu'à 12 semaines puisqu'elle l'était jusqu'à 10 semaines avant avec la loi Veil. L'entretien forcé et obligatoire psychologique est enlevé. Les mineurs ne sont plus obligés d'être accompagnés de leurs parents mais d'un adulte de leur choix. Voilà, donc on a quelques avancées, voilà. Et puis on se retrouve aujourd'hui et j'ai souhaité en fait vous parler de l'histoire de la légalisation de l'avortement en France aussi parce que en cherchant cette histoire, je me rendais compte qu'il y avait des choses que je ne trouvais pas dans nos livres d'histoire ou quand on cherche tous les textes et toute l'évolution des luttes féministes. Et une chose dont on ne parle pas et que j'ai insérée dans cette histoire, c'est l'affaire du MLAC et du procès en 77. Et une chose dont on ne parle pas, qui est que malgré la loi Veil, des femmes ont continué à revendiquer le droit à l'avortement pratiqué par elles, par des femmes, pour des femmes, et qui pour moi est au centre de mes préoccupations aujourd'hui. Et je me pose cette question de la manière dont l'histoire est transmise, et parfois l'histoire est transmise par rapport à ce qui est nécessaire de maintenir en place. Et je pense que cette chose-là ne nous a pas été transmise pour qu'on reste un peu sage aussi, encore.
Ce que je trouve intéressant aussi dans le fait de réentendre l'histoire de la légalisation de l'avortement, c'est donc bien de se rendre compte que c'est quelque chose qui a été acquis aussi par les luttes des femmes, notamment dans les années 60-70. Et je trouve que c'est toujours important à rappeler, puisqu'il faut savoir, on ne va pas le développer aujourd'hui, on n'a pas le temps, on pourrait faire une émission rien que sur eux, et elles, ces personnes qui donc sont contre l'avortement et qui ont plus de pouvoir que ce qu'on peut penser. Ces personnes font régulièrement des prières devant les hôpitaux. Effectivement, il y a une certaine époque où ils avaient aussi des modes d'action plus violents. Bon, ça a été réprimé, c'est moins présent en France. Mais voilà, ils existent et on voulait bien affirmer un positionnement très clair dans cette émission. Après, des fois, on va se permettre de peut-être avoir une vision critique de cette loi Veil. Pour autant, on voulait bien affirmer très clairement notre position qui est pour un droit à l'avortement pour toutes les femmes qui en ont envie, besoin, quelle que soit la façon dont elles l'envisagent.
Donc les critiques qu'on va pouvoir amener, elles ne vont surtout pas dans le sens des gens qui veulent remettre en question le droit à l'avortement. Nous, on n'a pas envie de placer le débat sur ce terrain-là. On a plus envie de parler de revenir aux premières personnes concernées, à savoir les femmes, qu'est-ce qu'elles vivent avec leur corps et comment on pourrait améliorer les conditions de ce qu'elles vivent.
Et donc on va écouter un morceau de musique qui est bien en lien avec ton histoire du MLAC, qui du coup, ces femmes qui continuaient à faire des avortements elles-mêmes alors que la loi Veil était déjà passée. Et je pense que la chanson qu'on va écouter, c'est peut-être bien elles qui l'ont écrite, parce qu'elle parle exactement de ça, du fait de ne pas se laisser enfermer par une loi et de continuer à avoir du pouvoir sur nos corps en tant que femmes.
Avortement d'État. Si les femmes sont inconscientes, c'est de rester devant la loi, coupable de ce droit. Avortement d'État, sorcière de notre siècle, femme emprisonnée, femme jugée, sommes-nous en féodalité? L'enfant que tu n'as pas choisi, ils veulent toujours, toujours te l'imposer. L'enfant que tu n'as pas admis, ils peuvent toujours, toujours te l'imposer. Leur loi, ils veulent les réformer pour que ta lutte soit étouffée. Avortement d'État, loi que l'on déguisa, un jour de farce à l'Assemblée, sans nous y décider. Avortement d'État, encore la profitera, nous celui qu'on avait appris était libre et gratuit. L'enfant que tu n'as pas choisi, ils veulent toujours, toujours te l'imposer. L'enfant que tu n'as pas admis, ils peuvent toujours, toujours te l'imposer. Leur loi, ils veulent les réformer pour que ta lutte soit étouffée. Avortement d'État. Si les femmes sont inconscientes, ce n'est pas de tout ce silence, mais de leur force et de leur droit. Avortement d'État condamne encore les femmes, mais plus jamais on admettra qu'ils emprisonnent ce droit. L'enfant que tu n'as pas choisi, ils veulent toujours, toujours te l'imposer. L'enfant que tu n'as pas admis, ils peuvent toujours, toujours te l'imposer. Leur loi, ils veulent les réformer pour que ta lutte soit étouffée. Mais plus jamais on admettra qu'ils emprisonnent ce droit.
Donc on est toujours dans les années 70 et des 70 à nos jours avec Dégenré, l'émission féministe autour de l'avortement ce soir. Et donc, après ce moment plus d'histoire, nous, on avait envie de revenir à l'intime et donc à des paroles, des témoignages qui, pour nous aussi, font partie de l'histoire, puisque tous ces mouvements de femmes, c'est des femmes avec leur vécu, leurs histoires qui se sont battues. Et donc, on va aussi vous parler de nous, de qu'est-ce que ça nous évoque à nous, en tant que personnes, cette histoire d'avortement. Et du coup, peut-être Myriam, tu peux nous raconter un peu ton parcours à toi.
Ouais, ouais. Donc moi, ça évoque un gros nœud bien, bien profondément enfoui à l'intérieur de mon corps. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai avorté il y a maintenant plus de 10 ans. À l'époque, j'avais 15 ans et demi. Parce qu'à l'époque, c'est important la demi-année, quoi. Bon, bref, j'avais 15 ans et demi. Et en gros, je me dis souvent que j'ai découvert et je suis entrée dans ma sexualité par un avortement. Alors, ça fait un peu bizarre comme ça, mais c'était une première relation, en plus pas super... bon, comme on peut avoir une première relation pas géniale, avec un gars en vacances qui ensuite m'a filé un faux numéro. Bref, en plus, il a jamais su que j'étais enceinte, tout ça, tout ça. Là, donc, ça commence super bien. Famille sympathique au demeurant, mais quand même pas très ouverte sur certains trucs. Ma mère qui travaillait toujours à l'époque dans le milieu, planning familial, tout ça, donc avec qui, auprès de qui on peut s'attendre à une certaine ouverture, mais du coup hyper critique aussi par rapport à tout ça. Un père maghrébin, donc avec quand même certains schémas bien ancrés. Enfin voilà, je pose un peu le contexte. Donc voilà, je entrais au lycée en plus, donc j'arrive première semaine de seconde et j'étais pas bien. Ouais. Donc je vomissais, tout ça, enfin le classique. Et je pensais que j'étais, enfin voilà, que j'étais un peu malade. Mais non, je n'étais pas malade, j'étais enceinte. C'est donc la fameuse infirmière du lycée qui m'a appris, elle m'a vue, elle m'a fait « Mais vous êtes enceinte ?» Moi ? Mais non !
Ça t'était pas venu à l'idée ?
Mais alors, pas du tout. Bizarrement, tu vois. Après une première... Non, si. Pourquoi ça m'est pas venu à l'idée ? Parce que quand même, je fais partie de la génération où l'éducation sexuelle et notamment la prévention sida à l'école, on nous en faisait des tartines. Donc, j'avais quand même, dans cette première expérience sexuelle, un petit peu sexuelle, parce que, bon, enfin oui, sexuelle quand même, et ben fait pression pour utiliser le préservatif. Par contre, comme j'avais pas du tout d'expérience, c'est pas du tout moi qui m'en étais occupée, quoi. Donc j'imagine que le craquage, que le gars m'en a jamais dit, m'a jamais rien dit, voilà. Donc,
et que toi, t'avais pas trop de moyens de savoir.
Voilà. Donc moi, enfin voilà, ça m'était vraiment pas venu à l'idée, effectivement. Donc voilà, j'apprends ça. Bien évidemment, 15 ans et demi, j'allais pas garder un gamin, quoi. Qu'est-ce que j'en aurais fait ? Enfin non, pas moyen. Et à l'époque, ben, c'était avant les aménagements de la loi, c'est-à-dire j'étais obligée d'être accompagnée par un de mes parents. Mmh. Après, c'est passé à une personne majeure, pas forcément les parents ou la famille. Et bon, maintenant, on n'a plus besoin d'être accompagné, je crois, forcément. Si, par une personne majeure encore.
Oui, pour les mineurs, par une personne majeure.
Oui, bon,
quasiment. De leur choix, quoi.
Voilà. Bah, donc, j'ai dû en parler à ma mère, en lui demandant expressément de ne pas en parler à mon père. Bien entendu, le soir même, elle lui en a parlé. Je me suis fait choper par mon père. C'est un moment hyper dur où voilà, il arrive, il me chope et il me traite de pute. Enfin voilà, donc quand tu vas avorter 3 jours après ou 2 jours après, c'est pas les mots que t'attends de la famille. Enfin bon, bref, voilà. Et puis bon bah donc il faut aller avorter, donc entretien à l'époque aussi obligatoire, bonne culpabilisation donc de tout l'entourage familial, les amis t'en parlent pas, le lycée t'en parle pas, les médecins, en plus c'était un médecin homme horrible, un vieux, enfin vraiment horrible, pas du tout dans l'accompagnement, dans l'attention, mais dans une culpabilisation. Bon, déjà, moi, à 15 ans, t'es pas super ancré non plus dans tes...
Oui, t'as pas de certitude. Voilà.
Donc c'était forcément un moment difficile et j'ai vraiment pas été aidée de ce point de vue-là. C'est-à-dire vraiment personne pour m'accompagner, si ce n'est dans la culpabilisation de ce que j'étais en train de faire, quoi.
Ouais, parce que donc, pour ta famille, ça allait de soi qu'il fallait que tu avortes.
Ouais. Oui, c'est clair. Mais que du coup, j'étais une pute qui avait couché avec un gars à 15 ans.
Donc t'avais commis une faute.
Ah oui, une énorme faute, une énorme erreur. Ouais. Voilà. Et puis après, l'intervention en elle-même, donc j'avais pas, je sais plus à combien de semaines j'étais, mais j'ai pu, il y avait déjà le RU, donc la pilule. J'avais le choix donc entre un avortement par aspiration, donc avec pas forcément une opération parce que c'est pas forcément sous anesthésie générale, et de prendre une pilule qui va déclencher, en fait qui va expulser ce que t'as dans l'utérus. Donc moi j'ai fait ça parce que ça me faisait un peu peur, le truc de l'opération, voilà.
Ouais, à l'hôpital, l'intervention.
Ouais, ceci dit, c'est quand même à l'hôpital, hein, la pilule.
D'accord, la pilule, d'accord.
Ouais, ouais. Donc t'arrives à l'hôpital, on te met en blouse, enfin voilà, la bonne malade... et puis on te file ce truc, donc il n'y a personne pour t'accompagner, t'es là-dedans, on te file cette pilule, en gros, gobe ça, personne ne t'explique rien, et là, tout le monde se barre, toi t'es seule sur ton lit, oui, je ne sais pas pourquoi j'étais dans une chambre toute seule, parce que bon, bref.
Enfin en tout cas, là il n'y avait plus ta famille en fait,
ah non, là,
autant ils étaient là pour l'autorisation, mais là ils n'étaient plus présents.
Là il n'y a plus personne, non. Et du coup, on te file ce truc, et en fait c'est méga violent, quoi, c'est-à-dire ça va te bousiller à l'intérieur, ça va aller tout te racler à l'intérieur et expulser, mais d'une force, un peu, quand on a des règles douloureuses, on peut voir un peu ce que c'est, mais c'est ça puissance 10 000, quoi.
Ouais. Enfin, ça, c'est ton vécu à toi. Enfin,
oui,
c'est
oui, oui.
Pour
replacer
à chaque fois que nous, on est bien. Et c'est l'important, hein, mais que je pense que toutes les femmes ne le vivent pas pareil, ouais, sans doute ou quoi. Mais toi, en tout cas, c'est comme ça que.
Oui, je trouve ça important parce que tu l'as très mal vécu. Donc, tu as tout à fait raison d'être honnête et de raconter comment t'as morflé. Hein,
ouais. Il y en a d'autres qui ont morflé, c'est vrai, c'est vrai.
Mais il y a des
gens
qui ont moins morflé. Ouais, ouais. J'ai lu aussi des témoignages de femmes qui, justement, comparent ça. Oui, bon, les règles douloureuses, on a mal, là, c'est pareil, quoi.
Ah ouais.
Toi, tu dis que c'est mille fois pire. Bon.
À un corps différent aussi, et puis c'est un contexte différent et tout ça. Quoi.
Oui, puis un âge aussi, je pense, qui compte. Parce que, donc tu. En tout cas, moi, j'ai perdu beaucoup de sang, ça, je pense que c'est pour tout le monde. Et j'en suis arrivée à un point à tomber dans les pommes, me péter la gueule du lit sans personne pour être là. Enfin voilà. Donc le truc, immondissime, quoi. Conclusion, ce passage de ma vie, j'en ai plus jamais reparlé à personne, ni à mes parents, j'aurais jamais renvoyé dans la gueule ce qu'ils m'avaient fait, ni à mes amis. Et c'est vraiment avec l'arrivée de cette brochure dans la boîte aux lettres que je me suis sentie 10 ans après, quoi, de reparler de ça et de le partager, et ce qui fait un bien fou, quoi, parce que on a toutes des histoires super différentes avec ça, vécues ou pas, et effectivement, ouais, il y a des femmes pour qui ça se passe mieux, mais néanmoins, je pense que dans chaque expérience, il y a des trucs qui vont pas, il y a vraiment des choses à changer dans notre pratique de l'avortement, même maintenant avec les aménagements par rapport à il y a 10 ans, quoi.
Et notamment, je trouve, ce qui frappe dans ton témoignage, c'est le silence. C'est le fait de ne jamais en parler, en fait.
Ouais.
De vivre 10 ans sans en parler jamais à personne.
Bah si, j'ai dû en parler une fois ou deux, mais pas en tout cas. Si, j'ai dû en parler aux gens que je connaissais à l'époque, enfin à mes amis très très proches qui se sont aperçus qu'il y avait quelque chose, donc je leur ai dit, mais on s'est pas posé, on n'en a pas discuté, quoi. Et après, tous les gens que j'ai rencontrés après, c'est vrai que jamais j'ai dit, tu sais, j'ai vécu un avortement il y a 10 ans. Et alors que tu te rends compte, après, en discutant par personne interposée, grâce à ce groupe notamment où on s'est rencontrés pour discuter de ça, bah, que des femmes que tu côtoies tous les jours ont aussi vécu un avortement, sauf que tu n'en as jamais parlé avec elles, quoi. C'est absolument hallucinant, je trouve.
Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose de récurrent, effectivement, voilà, en parlant, que bah, la loi est peut-être passée depuis 30 ans. Donc, il ne s'agit pas d'un acte illégal. A priori, voilà, comme tu dis, il y a des campagnes contraception, prévention sida, tout ça. Donc, bon, on parle indirectement, on va dire, de sexualité. Mais l'avortement, je pense qu'il y a plein d'anecdotes, voilà, il y a plein d'anecdotes là-dessus, en fait, où ça reste, j'ai l'impression, des choses générales, enfin ouais, dans différents cadres, quoi.
Moi, une des anecdotes, c'est j'ai eu ma mère au téléphone la semaine dernière, je lui dis on va faire la prochaine émission sur l'avortement, du coup je voulais te demander, maman, tu m'as jamais raconté, est-ce que t'as déjà avorté? J'y vais cash, hein. Bon, on a des bons rapports toutes les deux, ça va. Et là elle me dit, mais oui, mais je te l'ai déjà dit, tu te souviens, je te l'ai dit avant toi, j'ai fait une grossesse qui s'est mal passée, j'ai eu les oreillons, du coup j'ai avorté. Et je lui dis, non, tu m'as jamais raconté ça. Moi, ce que tu m'as raconté, c'est que tu avais fait une fausse couche. Et voilà. Et là, elle a fait, oui, c'est vrai que j'ai menti pendant longtemps. Donc, voilà, hein, ma mère, elle a raconté pendant des années qu'elle avait fait une fausse couche, alors qu'en réalité, elle a avorté parce qu'elle avait les oreillons et qu'il y avait des risques. Bref, c'est un choix qu'elle a fait qui, sûrement aussi, était loin d'être évident et a pu se passer aussi dans la douleur. Mais pour dire la difficulté de dire, j'ai fait ce choix-là. Voilà, c'était une anecdote, comme on avait dit que c'était une émission d'anecdotes.
Ouais, et du coup, je crois que ça va être aussi un des nœuds de notre émission, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que dans une société aussi où, voilà, où on dit la sexualité, maintenant, voilà, ça s'est libéré, il n'y a plus de tabou. Quand on parle aussi la maternité, on a l'impression aussi, enfin, le nombre d'ouvrages sur comment bien vivre sa maternité, etc. Et qu'est-ce qui fait que cette question de l'avortement, bah, elle reste toujours aussi tabou. Donc, je crois que, voilà, on va dérouler ce fil-là.
Alors, pour dérouler en musique, on va avoir une chanson d'Anne Sylvestre. Et je voudrais faire une spéciale dédicace à Caroline.
Non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre, que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non. Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive, mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite, mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense, ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre, c'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche, c'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Vous écoutez Dégenré, l'émission féministe pour déranger. Donc après cette très belle chanson d'Anne Sylvestre qui nous parle d'avortement, on va écouter le témoignage de Marion.
Alors, j'ai donc avorté en fin août de l'année dernière, donc en 2006. Il m'est arrivé plusieurs choses à la tronche qui ont été assez douloureuses à ce moment-là. La première, c'est à un moment donné la non-possibilité pour moi de donner un sens à cette grossesse qui irait vers une interruption. C'est-à-dire que la grossesse aujourd'hui n'est considérée que dans un espèce de classique naturaliste des choses, c'est-à-dire grossesse égale accouchement, égale enfant, égale maternité. Or, eh bien, moi, j'ai souhaité à ce moment-là, je crois, sortir mon rapport super, enfin, le rapport super ghettoisant de la femme mère qui accouche, qui fait des enfants, etc. Et du coup aussi de décider que je ne suis pas une femme objet à l'intérieur de quel est l'enfant, en fait. Mais que, par contre, eh bien, je suis dans un état où je suis enceinte et que je vis des choses, en tout cas, j'ai vécu des choses. J'ai vécu des modifications hormonales, j'ai vécu plein de trucs un peu fous que je ne connaissais pas. Et j'ai souhaité donner de l'importance à ça. Et en fait, eh ben, je me rendais compte que ben, on ne donne pas... Enfin, il n'y avait pas la possibilité, en tout cas, quand on parle d'IVG, de donner de l'importance à ces 6 semaines que j'ai vécues et où j'étais enceinte. Ça a été une de mes premières difficultés. Et Marina, tu m'as invitée il n'y a pas longtemps à lire ce bouquin, un bouquin d'une gynécologue, Marie-Annick Rouméas, qui s'intitule « À l'écoute du corps et de la parole des femmes ». Donc j'ai juste visité ce moment où elle parle de l'IVG. Et c'est, en tout cas, je l'ai pris très chouettement parce qu'elle parle justement à un moment donné de l'avortement où on tente de ne lui donner qu'une histoire d'irresponsable, culpabilisante, alors qu'en fait, l'avortement, c'est aussi l'histoire de chacune. Et du coup, quel sens on donne à ce qui arrive ? Et c'est chouette parce qu'elle donne pas mal d'exemples dans son métier, de femmes qu'elle a rencontrées. Et elle dit, par exemple, ça a permis à des femmes, ben, du coup, de vivre cet avortement et de parler de l'avortement à sa mère et de savoir et de casser un tabou familial que sa mère a vécu un avortement parce qu'elle avait été violée dans son enfance. Et voilà, et elle raconte plein de choses comme ça, ou d'autres, par exemple, qui, vivant un avortement et se sentant complètement violentées, non pas dans l'acte en fait de l'avortement, mais de comment était arrivé l'avortement dans sa vie, et que ça avait complètement remis en question toute sa sexualité. Et en fait, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est de se dire à un moment donné que l'avortement, ben, c'est une expérience de la vie, et comme toute expérience de la vie telle que je l'ai conçoit, encore une fois, c'est une parole très subjective, et ben c'est leur donner sens, leur donner une histoire, celle qu'on voudrait ou pas. On peut aussi décider qu'on n'a pas envie de donner d'histoire. Et j'ai des potines qui me disent « Mais moi, l'avortement, je n'avais pas envie de me prendre la tête avec. Je n'avais pas envie qu'on me questionne ou de créer une histoire autour de ça. » Eh bien, ok. Mais moi, j'en avais envie. Et du coup, quelle place est donnée à ça ?
Donc, ça a été... J'ai l'impression qu'en sortant de cette norme-là, ça devenait très compliqué, quoi.
Complètement complexe. Et c'est-à-dire que des questions pourtant plutôt... on va dire, des personnes que t'aimes bien, mais qui te disent « mais t'es sûre, tu... est-ce que c'est parce que c'est pas le bon moment ?» Ou voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la grossesse n'est considérée que via l'enfant ou la question de l'enfant, en fait, et pas de toi, d'un événement hormonal qui est en train de se passer, puis basta, quoi. Et puis, tu n'as pas envie de t'enfermer dans ce corps objet ou ce corps ghetto, etc. Et puis du coup, ça m'a amenée aussi à une autre douleur, c'est la culpabilité dont tu parlais aussi, Myriam. Et en fait, j'ai l'impression qu'au début, je n'osais pas dire, quand j'ai su que j'allais avorter, et donc j'étais enceinte, je n'ai pas osé dire comment j'étais enceinte. C'est-à-dire que je disais, j'ai pas la capote à capoter. Et en fait, pas du tout. Et j'ai pris j'ai mis au moins peut-être 3 mois à pouvoir dire non, je n'ai pas eu de contraception à ce moment-là. Et je crois que ça, c'est un truc aussi qui est super tabou. Quand on parle d'irresponsabilité de la femme face à sa contraception, etc. Et ça aussi, quoi, c'est un truc où on n'en parle pas, vaut mieux pas le dire. Et puis je me rends compte qu'en fait, plus j'en parle et plus il y a de femmes et même d'amis mecs qui me disent on a vécu en fait une ou plein de fois des moments de situation où on ne se protégeait pas, clairement. Et je crois que ça, c'est un vrai truc dont on ne parle pas.
Ouais, ça rejoint ce que tu disais, Myriam, aussi, on est, nous, dans une génération, enfin, peut-être ça, c'est important, on ne l'a pas dit, on n'a pas donné nos âges, là, autour de la table, mais il me semble qu'on a entre 23, 24 ans et 30 ans, voilà, j'ai l'impression. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est en plein dans cette génération prévention, sida... éducation à la contraception, alors très technique, hein. Du coup je parle pas d'éducation sexuelle, je parle des quelques interventions qu'on a eues dans notre scolarité, de il faut prendre la pilule, il faut mettre des préservatifs, on savait pas toujours pourquoi ni comment, mais c'était pas grave, voilà, il fallait le mettre, quoi. Et ça, je pense qu'on l'a bien intégré, ouais.
Ce qui ne veut pas dire qu'on a su comment l'intégrer à notre sexualité. Et c'est pas du tout pareil d'intégrer les infos et le risque du sida et de la grossesse qui plane au-dessus de notre tête quand on a 15, 16 ans ou 25 ans et l'intégrer ensuite ces outils de prévention à notre sexualité. Et alors ça, il n'y a aucune parole autour de ça, ou une parole très compliquée pour raconter comment, quand on a une sexualité, on peut prendre en compte le fait qu'il faille se protéger de quoi, comment, alors que la sexualité c'est un moment de plaisir, ça peut être un moment d'abandon, et le tout capote oublie vraiment qu'on est des individus qui peuvent faillir, qui avons le droit des fois d'oublier de mettre un préservatif, d'avoir envie de baiser alors qu'on n'a pas de préservatif, bref, d'oublier qu'on est des êtres humains et pas des robots, quoi. Mais c'est très juste ce que tu dis sur la culpabilité.
Et puis, il y a eu peut-être cette dernière grande douleur qui a été, eh ben, du coup, avec tout ça, eh ben, je rencontre le monde médical. Oh, je l'avais déjà rencontré, je m'étais cassé le bras, par exemple, etc. Mais là, d'un coup, je me disais, waouh, c'est terrifiant, parce qu'encore une fois, on me laisse devant une situation où je n'ai pas de choix de décider de ce que je souhaite donner comme histoire à ce qui arrive et à ce qui m'arrive. Par exemple, eh ben, lors de l'échographie de datation de ma grossesse, eh ben, le médecin me dit, bah, de toute façon, je ne vous raconte pas, c'est pour une IVG, je ne vous montre pas, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis là, j'ai dit, ben, non, moi, j'ai envie de voir, j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître. J'ai envie de voir ce qui se passe dans mon corps, en fait, parce que je fonctionne comme ça, parce que c'est important pour moi. Et du coup, j'ai été complètement déstabilisée de cette espèce de truc où on me disait, ben non, voilà.
Et au final, il ne te l'a pas montré.
Au final, il m'a montré.
D'accord.
Au final, il m'a montré.
Il a fallu que toi, tu justifies ta volonté, quoi.
Et alors moi, ça me choque. ça me choque parce qu'alors le nombre de copines qui m'ont raconté. Donc voilà, moi personnellement, j'ai jamais avorté. A priori, là, je suis pas partie pour avoir besoin d'avorter un jour dans ma vie vu que je n'ai plus de sexe avec des hommes. Bref. Mais quand même, plein de copines qui m'ont raconté des fois. Voilà, les fois où elles avortent et où elles se retrouvent au moment de l'échographie, et donc la personne qui fait l'échographie leur dit « Oh, regardez le petit cœur qui bat !» Et là, elles font « J'en ai rien à foutre qu'il ait un cœur qui bat, je veux le tuer, alors c'est bon, laissez tomber, merde !» Enfin non, elles le disent pas comme ça, je pense juste elles font la gueule, elles tournent la tête, et puis elles ferment leur gueule et elles subissent ce truc qui est vraiment, pour moi, un manque de respect total. Alors là, tu tombes sur un médecin qui, pour le coup, ne fait pas ça, et te dit non, je veux pas vous montrer, voyons, je veux pas vous faire ça, et toi tu veux. Alors ça m'a fait chelou quand j'ai lu ça, j'avoue, j'ai dit ouais, c'est étrange. Alors je veux bien que t'expliques un peu ce truc de d'un coup tu demandes un truc qui, tu vois.
Oui. Non, je vais répondre parce que moi ça m'a pas du tout choqué d'entendre ça, parce que je me suis dit mais la question elle est pas là, en fait elle est pas de voir ou de ne pas voir ou quoi, elle est en fait d'avoir le choix en fait dans cet acte là parce que je veux dire c'est qu'il y a aucun c'est qu'il y a aucune vérité scientifique là-dessus, enfin je sais pas, il y a pas des risques sur une technique d'avortement ou quoi, là c'est un choix juste complètement personnel, d'avoir connaissance ou pas de ce qui se passe, ou de voir ou pas. Et du coup, à un moment, je comprends pas qu'on laisse pas le choix aux femmes sur plein de choses comme ça. Et c'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres que
ben, d'autres exemples, relater, voilà. D'autres exemples, par exemple, c'est que j'ai l'impression que je deviens un phénomène qui rentre dans un processus de technicité, des trucs à résoudre, des formulaires, de la vitesse. On me dit le rendez-vous ce sera la semaine qui suit. Et puis là, je dis, moi, j'ai prévu de faire autre chose de ma vie la semaine qui suit. Et on me dit, mais vraiment, on m'a dit ça. On me dit, mais c'est pas l'hôtel ici, hein. On n'est pas à l'hôtel. Hein. Et là, j'explose. Et puis je dis, il s'ensuit une grande engueulade. Du coup, j'arrive à avoir un rendez-vous 15 jours après. Et puis j'exige aussi d'avoir une chirurgienne, parce que je voulais que ce soit une femme et non pas un homme qui pour partager cette expérience là. Et puis pareil, quand je demande si l'ami qui lui aussi avait souhaité être présent lors de l'interruption puisse être présent,
qui avait un peu quelque chose à voir dans cette histoire,
qui était le co-concepteur de cette grossesse, et on me répond non, c'est pas possible. Et je dis pourquoi? On me dit parce que c'est pas possible. Bon, d'accord. Et puis, puis je me demande comment est-ce que je peux être accompagnée là-dedans. On me dit qu'en effet, il y avait une sophrologue avant. Mais bon, maintenant, avec le nouveau directeur, les budgets ont été réorientés. Il n'y a plus d'accompagnement ou de sophrologie ou quoi qu'on veut. Voilà.
Pour donc, travailler sur la douleur, la respiration, voilà. Tout ça, ouais. La sophrologie.
Ouais. Et puis, du coup, je me dis, c'est bizarre. Moi, j'ai souhaité, par contre, une donc, j'avais la possibilité de faire par voie médicamenteuse, mais j'ai choisi une intervention chirurgicale parce que je flippais, justement, de cette méthode où, d'un coup, t'es encore plus seule. Et je crois que j'avais besoin d'un moment partagé avec des femmes, quoi. Je crois que j'avais besoin d'une chirurgienne, j'avais besoin d'une infirmière, j'avais besoin d'être avec elle. À la fin de l'intervention, j'ai demandé comment ça s'est passé pour elle aussi. J'avais un espèce de comme ça, c'était très instinctif, je savais pas, mais il fallait...
Tu t'es écoutée, quoi, tu t'es dit
voilà,
un moment...
j'ai besoin de ça, comment est-ce que c'est possible ou pas et...
Tu l'as fait sous anesthésie locale ?
Locale, ouais, pareil, par choix.
Donc, t'étais
Consciente
au moment de... Alors, ouais. Comment tu l'as vécu ? Enfin, tu sais, un peu...
Eh bien, je souhaitais être consciente, toujours dans cette idée-là, de comprendre ce qui se passe et comment je vis ça. Et je l'ai vécu, on va dire, pendant 10 minutes, assez douloureusement, parce que ça fait mal. Après les 10 dernières minutes qui ont passé, eh bien, j'ai chialé. Parce que j'ai eu mal. Parce que d'un coup, en même temps, c'est un pleur où ça mélange parce que ça fait du bien. Parce que voilà, l'interruption a eu lieu, était heureuse. J'étais heureuse de cet événement. Oui, c'était un événement heureux de ma vie. Et puis pleurer aussi parce que d'un coup, je me retrouvais toute seule dans un couloir, comme une malade, habillée en malade. Juste après mon interruption, on m'a laissée dans ce couloir avec les néons. Et puis j'étais seule et je voulais... qu'il y ait l'ami qui soit présent, je voulais... Et ça m'a amené toute cette idée-là aussi de... D'un coup, je me disais, mais je suis une malade, une maladie. Du coup, c'était un constat un peu difficile aussi.
D'accord. Alors peut-être, après un morceau de musique, on pourra... reprendre, enfin je pense que voilà, là, on va reprendre notre respiration et tout, mais il y a plein d'idées dans ce que tu as abordé, notamment la question de la maladie, tout ça, je pense qu'on peut avoir envie de creuser tout ensemble. Alors on s'écoute quoi, Marina ?
Alors une chanson qui s'appelle « Laissez-nous vivre », tout droit venu encore de nos collègues des années 70.
S'il ne nous donne pas les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons, c'est qu'ils savent bien que ce serait catastrophique pour leur prévision démographique. Surtout pas trop d'informations sur la contraception, il vaut mieux culpabiliser celles qui se font avorter. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. S'ils ne nous donnent pas les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons, c'est qu'ils veulent contrôler leur production pour le contrôle de la production. Combien d'enfants sont vraiment désirés et combien sont-ils ceux qu'on a fini par accepter? Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. Ils savent que s'ils nous donnaient les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons, il n'y aurait plus assez de chômage pour leur permettre de nous exploiter. Que l'homme ne soit pas concerné par la maternité, il vaut mieux qu'il reste à l'écart de ces charmants moutards. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. Si nous donnions les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons, nous serions bien plus redoutables face à ces gros bonnets respectables. Surtout sachons nous battre dans le quotidien, il n'y a pas de moment privilégié pour savoir lutter. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller.
Donc vous êtes toujours sur Dégenré, donc ce soir autour de l'avortement. Donc on est, voilà, plein de choses à dire, parce que bah, ces vécus-là, ils sont très denses, parfois douloureux, parfois aussi bah, des moments de libération, tout ça. Et donc bah, Virginie, toi qui es étudiante en médecine, je crois que forcément ça t'évoque des choses aussi, soit à toi personnellement ou par rapport à ta pratique, je sais pas.
Certainement, oui. Ça soulève de nombreuses questions pour moi et que je m'étais déjà posées et que j'avais reléguées un peu dans un coin de mon esprit, prise par la vie finalement. Et c'est sûr, ces questions par rapport à femmes enceintes, femmes en détresse, femmes malades, je me les pose très souvent et je ne sais absolument pas quelle réponse y donner. Et d'ailleurs, la loi Veil pose cette idée-là qu'une femme enceinte qui va demander un avortement est une femme en détresse. Finalement, c'est le premier article de la loi Veil. Mmh. C'est aussi une question qui m'a interpellée, c'est cette idée de la grossesse non désirée comme une erreur, une irresponsabilité d'une femme, principalement. On évoque rarement le couple dans cette question-là. Donc moi, ça me paraît important de l'évoquer, le couple. Enfin, ceci dit, il a été évoqué dans l'émission. Et donc cette erreur qui conduirait donc à culpabiliser la femme et bon, également un couple dans cette situation. Mais c'est vrai que le point précis, moi, qui m'a énormément interpellée dans le témoignage de Marion, c'est la question de l'entourage de la femme qui avorte.
Fait qu'elle ne puisse pas être accompagnée ou qu'on lui refuse d'être accompagnée.
Voilà, c'est ça qui m'a interpellée dans son témoignage. Et je pense que c'est aussi important pour une femme d'être entourée par des soignants, mais également par son compagnon, ses amis, I ou IE, si c'est le cas, si c'est ses désirs, si c'est son choix. Et du coup, j'ai fait quelques recherches quand même, parce que je me disais, c'est étrange ce refus catégorique. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai un peu fouillé sur le net, essentiellement sur le net, pour trouver cette information que j'ai eu beaucoup de mal à trouver.
D'accord, donc c'est pas facile déjà quand on veut se renseigner sur ses droits, quoi.
Voilà, ou alors j'ai peut-être mal fait ma recherche aussi, ou j'ai peut-être pas eu suffisamment de temps pour trouver les réponses. Et connaissant en fait un médecin, Martin Vinclair, qui a écrit un ouvrage que j'avais lu, La vacation, où il témoigne de sa pratique des IVG, je m'étais dit ce serait intéressant peut-être de lui écrire un mail et de lui poser cette question-là directement, puisque lui aurait peut-être des réponses. Donc c'est ce que j'ai fait et je voulais un petit peu partager avec vous la réponse qu'il m'a faite. Donc en fait sa réponse c'est que en effet bien sûr être accompagné lors d'un avortement c'est tout à fait possible et au bloc opératoire, voilà. La seule réserve que lui il émet c'est peut-être si l'IVG serait pratiquée sous anesthésie générale et ceci dit même là le choix devra être laissé à la patiente. Et donc, rien n'interdit, ça c'est sa réponse hein, que je cite, rien n'interdit la présence d'une personne accompagnante dans un bloc, hein, si elle revêt comme tout soignant des vêtements de bloc, une blouse, un masque, un bonnet et des surchaussures. Et si vraiment on a peur qu'elle contamine quelque chose, on peut aussi lui faire porter des gants. Donc voilà, cette requête est tout à fait légitime pour toutes les femmes, c'est intégré au code de santé publique.
Donc ça, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose quand même à noter, parce que effectivement c'est une des questions, j'ai l'impression qu'on n'est pas informé du tout de ce droit-là, et qu'a priori un médecin très reconnu comme Martin Vinclair dit oui, c'est possible, et les femmes ont le droit de demander ça, quoi.
Voilà, et certainement que dans la position de patiente, on est intimidé et on ne sait plus bien où sont nos droits, c'est important de les redire un peu, je pense. Voilà, c'était un peu ce que je voulais un petit peu amener par mon témoignage.
D'accord. Eh ben, j'ai l'impression que nous aussi, en entendant tout ça, il y a plein de choses que ça fait émerger. Et notamment donc, sur le premier article de la loi Veil, sur cette question de femmes. Alors, je ne sais pas comment il est formulé, ces femmes en précaire, en détresse. Voilà.
C'est détresse. Hein.
Voilà, et alors... Ben, ça, c'est pareil. Moi, personnellement, ça m'interroge parce que ça veut dire, en détresse, ça veut dire, enfin pour moi ça va dans le sens de la culpabilité en fait, enfin voilà, c'est-à-dire elle a fait une faute et du coup elle se retrouve en détresse et du coup il faut soigner cette maladie ou quoi. Et moi du coup ça m'amène à dire, ben moi peut-être là où j'en suis par rapport à ces questions d'avortement ou quoi, c'est de dire, ben pour moi à l'heure actuelle, je crois que j'ai fait le choix de pouvoir assumer l'avortement comme comme mode de contraception quelque part. Alors je crois que j'ai pas envie de me justifier pour dire à quel point j'en ai chié avec la pilule, avec un implant que ma gynéco m'a mis et qui m'a fait saigner pendant des mois et qu'elle m'a fait plusieurs traitements médicamenteux pour arrêter les saignements. Donc de me dire, attendez, donc la contraception, donc après faut se prendre 15 médocs derrière pour réguler le tout. Enfin bon, j'ai pas envie, enfin voilà, je vous le dis parce que c'est des choses qui pour moi ont, enfin sont des témoignages aussi qui ont du sens, mais j'ai pas envie de me justifier. Pour moi, c'est mon choix. Pour moi, c'est pas un manque de respect, et j'ai besoin de le dire, c'est pas un manque de respect à toutes les copines qui ont et qui continuent à souffrir des avortements, pour qui c'est l'horreur ou quoi. Je leur dis pas, ouais, vos souffrances, c'est de la gnognotte, moi je suis forte, moi j'irai avorter, voilà, j'irai avorter le sourire aux lèvres et tout. C'est pas ça que je dis. Je dis juste, dans ma sexualité, dans ce que je vis, tout ça, je sais qu'a priori, j'ai peu de chances de tomber enceinte dans la sexualité que je vis. Mais si ça doit arriver, a priori, j'avorterai et j'ai envie de l'assumer. Et justement, moi aussi, j'ai toujours vécu, pour moi, jusqu'à il y a quelques temps, c'était le préservatif, c'était obligé dans les relations sexuelles, la pilule, pareil, ça allait de soi. Et à un moment, je veux dire, j'avais pas réfléchi vraiment à ma situation, à moi personnellement, c'était comme ça, c'était établi, c'était la règle, et du coup, je l'avais jamais questionné. Et à un moment, moi, je me suis dit, mais en fait, c'est ton corps là dont il est question et de rien d'autre, quoi. Et du coup, dire, oui, c'est toi qu'on assumera les conséquences. Enfin, je veux dire, maintenant, je peux dire, je me sens responsable de mon corps, je me sens responsable des conséquences de mes actes. Et du coup, je me sens prête à avorter à un moment s'il le faut. Et du coup, tout ça pour dire que si je tombe enceinte, j'ai pas l'impression que ce sera pas une situation de détresse ou ce sera un risque que j'ai encouru en connaissance de cause. Ce sera pas la joie, mais je pense que aussi j'ai connaissance de mes droits, justement. J'en parle avec plein de copines, je me prépare à ça aussi, justement. J'en parle avec plein de copines là autour de moi et on se soutient là-dedans. Et du coup, j'ai l'impression que grâce au fait d'en parler et d'être vraiment soutenue collectivement là-dedans, je me prépare à ça. Et du coup, je pense que ce sera moins dramatique que pour plein de femmes. Pour qui ce qui est dur, c'est pas forcément l'intervention en soi, c'est toute la pression sociale, la culpabilité qu'on leur inculque et tout ça. Alors moi, la question de femmes en détresse, tout ça, je trouve que c'est vraiment des espèces de clichés qu'on continue à véhiculer pour rendre coupables aussi les femmes et tout. Et je trouve ça assez ennuyeux. Ouais, on a des petits soucis de micro, tout ça, donc c'est la spontanéité de la parole n'est pas facile. Je crois que Marion, t'avais envie d'intervenir,
ouais.
Et t'as enfin trouvé un micro pour parler.
Ouais. Ouais. Ça m'amène en fait deux petites choses que tu racontes, une autre anecdote assez terrible. Une personne très proche de moi, je lui raconte, on se voit très peu souvent, et je lui raconte d'un coup beaucoup de choses de ma vie. Donc en gros, les dernières choses, grands événements de ma vie, qui sont par exemple l'avortement, et puis aussi que ça y est, le végétarisme fait partie de ma vie. Et cette personne me dit, oh là là, mais c'est fou, ça m'inquiète, parce que à un moment donné, décider de plus manger de viande, c'est ne plus vouloir manger de cadavres, mais je veux dire, ça rejoint la question du coût de l'avortement, c'est à un moment donné tuer la vie, c'est... J'arrête. Et là...
Oui, c'est un peu pénible de pouvoir entendre, mais bon, c'est...
Je l'ai entendu.
Voilà.
Non, mais voilà, je le porte en termes d'anecdote, parce que je l'ai entendu. C'est un discours qui existe d'une personne proche de moi. Et à un moment donné, ça m'a fait aussi me questionner aussi sur la représentation de l'acte d'avorter. Où souvent, et ça c'est très lobbying, anti-IVG, etc. C'est-à-dire on met la notion de la vie à l'intérieur. Et je crois qu'à partir du moment où on décide de ne pas avoir d'enfant, on est dans une démarche de pensée où on n'aura pas d'enfant. Donc, on décidera de ne pas, en effet, créer de vie ou de nouvelle vie, enfin, pas sous cette forme-là de l'enfant, en fait. Et du coup, à partir du moment où on décide ça, et ensuite, c'est quelles que soient les méthodes que l'on entreprend. Quelles que soient les méthodes. Et finalement, la contraception, elle peut passer par la pilule, par le préservatif, par des relations sexuelles avec non-pénétration vaginale du sexe de l'homme dans le sexe de la femme. Ça peut être l'avortement. Et après, ce sont chacun et chacune nos méthodes. Voilà. Et c'était vachement important de le dire.
Ouais, juste pour juste deux mots pour dire que c'est une question qui est super importante aussi. On la verra peut-être pas ce soir, mais cette question de la sexualité et de ce qui est, on va dire, légitime ou normé en termes d'actes sexuels, en l'occurrence la pénétration de l'homme dans la femme et l'éjaculation dedans, quoi. Et c'est aussi tant qu'on n'aura pas aussi été au-delà de cette norme de l'acte sexuel qu'on aura aussi toute cette question d'avortement, contraception, tout ça, quoi.
Qu'est-ce qui est fécond ? Ça pose cette question. C'est l'éjaculation de l'homme dans le ventre de la femme, ou c'est le ventre de la femme ? C'est quelle relation sexuelle ? C'est quelle position sexuelle ?
Alors, sur ces grandes questions que vous pourrez méditer pendant une pause musicale qu'on voulait un peu dédicacer, alors il paraît qu'à Marseille on nous écoute. Salut les copines de Marseille. Et Marion, tu voulais aussi faire une dédicace, vas-y, annonce la chanson et tout.
Alors, la dédicace, c'était pour le petit groupe des 70, parce que sans l'arrivée de Regarde à les yeux grands ouverts dans ma vie, par rapport à tout ce groupe de travail sur la recherche de ces mouvements de lutte et de subversion des 70, et ben je crois que j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Alors, spéciale dédicace à vous. Et la chanson, c'est Debout.
Debout. Et c'est un grand hymne, justement, de lutte des femmes dans les années 70.
J'ai rêvé d'une rue où la peur me quitterait. Je rêve d'une rue sans la peur à mes côtés. Il est 10 heures du soir, femmes, rentrez chez vous. Les hommes peuvent aller boire, nous resterons chez nous. J'ai rêvé de grands murs sans images qui me vendraient. Je rêve de grands murs sans mon corps sur du papier. Mais les murs sont loués à la publicité. Mais les femmes sont vouées être morcelée. J'ai rêvé d'une ville qui ne serait plus un ghetto. Je rêve d'une ville sans une ombre dans mon dos. Je peux toujours rêver, la rue n'est pas aux femmes. Je veux toujours lutter pour que nos pas se calment. Je peux toujours rêver, la rue n'est pas aux femmes. Je veux toujours lutter pour que nos pas se calment.
Dégenrer l'émission pour déranger, on va continuer un peu le débat, puisque là on en est un peu à du débat, à de la discussion en tout cas, entre toutes les personnes, toutes les femmes qui sont autour de cette table, donc qu'on soit futur médecin, ex-avorté, futur avorté peut-être, lesbienne, en recherche, bref. On est tout autour de cette table et on discute un peu de nos différentes façons de voir, donc là il nous reste à peu près 10 minutes d'émission, donc on va continuer à aborder un peu les sujets qui nous tenaient à cœur tout autour de cette histoire d'IVG. Alors par exemple, la Virginie, hors antenne, je le dis parce que je pense que c'est important, tu réagissais un peu tout en disant que peut-être tu ne savais pas trop comment réagir, mais à ce que disait tout à l'heure Hélène sur le fait qu'elle avait choisi de considérer que l'avortement pouvait être sa méthode de contraception actuelle.
Oui, c'est vrai qu'après, ma culture de, mes études de médecine me confrontent à cette idée-là qui fait très peur, à mon avis, dans les milieux médicaux. Je ne saurais pas quelle position adopter, mais c'est vrai que cette conception de l'avortement comme contraception me choque un peu et que je pense qu'il est important quand même d'essayer de prévenir cette façon de voir les choses. Enfin, comment dire, que finalement, c'est quand même pour... Non, là, oui, j'ai un peu du mal à poursuivre, mais bon, c'est vrai, je pense que c'est important de le rappeler que bon, c'est peut-être un petit peu difficile à envisager comme ça.
Mais moi, je crois que là, c'est pas du tout pour défendre ma position à moi, parce qu'elle est assez mûrie, donc ça va. Mais moi, c'est plus pour dire quand même que là où je crois qu'il y a des fantasmes, en fait, sur cette peur de toutes ces femmes qui choisiraient l'avortement comme mode de contraception, c'est que moi, justement, par rapport à des médecins qui pratiquent dans des centres IVG, etc., les femmes qui viennent avorter, j'ai l'impression qu'il y en a très peu qui se sont dit... Enfin, il y en a beaucoup qui utilisent des modes de contraception, mais qui, effectivement, une fois, ne vont pas mettre de préservatif, une fois, la pilule ne va pas marcher, une fois, machin. Et du coup, pour la plupart, vraiment, de toutes les études, j'ai l'impression qu'il y a eu ou quoi, ce ne serait pas du tout un choix pour elles, l'avortement comme mode de contraception. Donc moi, j'ai envie de dire, j'ai conscience d'être une exception, du coup, que ce n'est pas quelque chose qui va se répandre. Et pour moi, ça veut dire... que c'est vraiment un choix individuel qui doit se faire en toute connaissance de cause. Ça veut dire qu'il faut que vraiment toutes, on ait accès au maximum d'informations sur toutes les possibilités. Donc, avant tout, de prévention des grossesses. Et après, moi, j'ai l'impression d'avoir pu mûrir ce choix parce que ça fait des années que dans des groupes féministes, j'ai connaissance de tous les modes de contraception, que j'ai essayé plein de choses, que j'ai mûri vraiment toutes ces réflexions-là. Donc, c'est bien d'avoir toutes les informations et ensuite, dans un parcours individuel, faire le choix qui nous correspond, à mon sens.
Toutes les informations et aussi des heures et des heures cumulées toutes ensemble de discussions sur la sexualité, ce qu'on parlait un peu avant la pause musicale. Quelle sexualité on a, quelle sexualité on choisit. Et je sais pas, j'aurais envie de te demander, ça fait combien de temps que tu as fait ce choix-là de cette histoire de contraception IVG et t'as toujours pas fait d'IVG. Enfin, ça veut pas dire que tu vas avorter 3 fois par an. Ça fait 3 ans, donc voilà. Et pourtant, tu n'as pas avorté. Donc c'est bien, c'est bien pour dire qu'aussi, si ça va en parallèle avec une réflexion sur la sexualité, sur quelle pratique sexuelle on a vraiment envie, à quel moment ? Voilà, j'ai pas tout le temps envie de pénétration vaginale, du coup ça m'arrive une fois de temps en temps, je ne me protège pas forcément, et je sais que si je tombe enceinte, Enfin, c'est important aussi de bien dire que ton choix, il s'ancre dans une pratique féministe, dans une réflexion féministe, c'est-à-dire entourée de plein de copines avec qui on a passé des heures à parler de ça. Et du coup, c'est pas du tout irresponsable, en fait, ça me paraît pas irresponsable, en tout cas.
Ouais, donc plein d'autres réactions, j'ai l'impression. Alors là, ça va être un peu, ça part dans tous les sens, mais je crois que c'est plein de messages qu'on a envie de faire passer, tout ça.
Jongler avec les micros.
Et les chaises.
Et les chaises, c'est le jeu des chaises musicales ce soir. Non,
moi, je voudrais pas qu'on finisse l'émission sans reparler un petit peu du film Regarde, elle a les yeux grands ouverts et de ce mouvement du MLAC à Aix-en-Provence. Parce que, moi, je l'ai vu récemment, la semaine dernière, et ça a vraiment révolutionné plein de choses dans ma tête, et puis dans mon corps aussi, dans mes émotions. Juste pour faire super, super rapidement, en gros, c'est l'histoire de ces femmes qui vont pratiquer des avortements chez elles, donc pas médicalisées. Enfin, elles ont appris des gestes, il y a des amis médecins.
Par des médecins.
Ouais. Voilà, qui leur ont montré, qui sont là aussi de temps en temps pour revoir avec elles tout ça. Et donc, la femme qui a envie d'avorter, ou d'accoucher d'ailleurs, parce qu'il y a à la fois des avortements et des accouchements, arrive dans cette maison, elle est entourée, il y a une discussion entre elles, il y a plusieurs nanas qui vont avorter, qui discutent entre elles. Elles assistent à l'avortement de l'autre, elles sont là, il y a 5-6 personnes autour, elles tiennent la main des personnes, elles sont là, elles leur écoutent, attentionnées, elles prennent le temps qu'il faut. Quand c'est fini, elles mangent ensemble une soupe à l'oignon, une soupe au pistou, selon la saison, enfin peu importe. Et c'est vraiment quelque chose de totalement révolutionnaire pour moi, quoi. En termes de dédramatisation de l'acte, d'accompagnement, d'entourage, enfin c'est un truc qui m'a... Et je me dis, c'est quand même un espèce de bond en arrière qu'on a fait depuis ces années-là, où ça, c'est plus possible. C'est-à-dire, t'as plus le choix. De toute façon, l'avortement, c'est médicalisé. Même si maintenant, la voie médicamenteuse, tu peux la prendre chez toi, mais t'es seule. Enfin voilà, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et je me posais la question, de savoir si ces techniques à la fois très technicienne et à la fois cette présence de ces femmes avait été transmise à nos générations ou pas, ou si on avait totalement perdu ce combat-là, et comment, quelle possibilité on avait peut-être de remettre quelque chose de cet ordre en place, en sachant que pour l'instant, effectivement, ça serait dans l'égalité la plus totale, donc en parallèle peut-être un combat législatif sur changer cette loi Veil, quoi.
Je rebondis sur cette idée justement de pratique. Je crois que le fait qu'on ait fait de cet acte, l'avortement, un seul et unique acte médical en termes d'intervention chirurgicale, a fait qu'on a complètement isolé la femme, en fait. On isole la femme des autres femmes. Dans ce sens qu'à un moment donné, dans les 70, tous ces mouvements qui se créaient d'accompagnement des femmes par et pour les femmes permettaient de rompre avec le silence sur les comportements sexuels, sur la sexualité, sur sa vie, sur soi, etc. Et j'ai l'impression qu'à l'hôpital, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Tu n'as pas d'espace de parole, tu n'as donc pas aucune possibilité de conscientiser en fait tous les enjeux qui amènent à la question de l'avortement. Tu n'es pas, et que du coup tu ressors et on te dit maintenant tu prends la pilule quoi, et tu remettes pas ton utérus dans notre service, et du coup on ne va pas au fond du problème, on ne va pas vers une solidarité aussi entre les femmes, à parler de nos vécus, de nos expériences, et pourquoi pas aussi s'entourer d'amis mecs, enfin, sans problème, quoi. Mais en tout cas, c'est l'idée de l'accompagnement possible par et pour les femmes, et que les femmes qui luttaient dans les 70, en tout cas au sein de mouvement du MLAC, ce n'était pas pour une modification de la loi de 1920, c'était pour son abrogation, c'est-à-dire le droit à l'avortement. Il n'y a pas de droit pour accoucher. Il y a le droit d'accoucher, mais il n'y a pas de loi pour accoucher. Or, il y en a une pour avorter. Comme on ne peut pas avorter le week-end, par exemple. On avorte du lundi au vendredi, de tel à tel horaire.
Voilà, et donc on peut accoucher chez soi, mais pas avorter chez soi. Donc je crois que puisque là tu parles du passé, du coup effectivement Myriam, là t'essaies sur l'heure actuelle, donc moi ça me semble important de dire ce film dont on vous parle, dont on fait l'éloge et tout ça, vous pouvez nous envoyer des mails c'est quoi notre adresse mail là,
Dégenré, Dégenree @boom.org.
Et donc c'est dans ces mails-là, vous pouvez, si vous êtes intéressé pour voir ce film, on peut vous tenir au courant des projections, etc., par Internet, sachant qu'il y aura probablement une projection dans un Ladyfest, un festival de création de trucs de femmes et tout ça, au mois de mai. Mais c'est des choses qui sont en cours de préparation, mais dont on vous tiendra au courant sans souci dans des genres.
Et puis plus et au-delà du film, si vous avez envie de rentrer aussi en contact avec nous et nos questionnements et tout ce qui se dit ce soir et qu'il y aurait encore plein de choses à raconter, ce mail, il peut servir à ça aussi, j'imagine.
Oui,
à fond.
Oui, c'est pas qu'un mail pratique, c'est un mail aussi où on peut poursuivre des réflexions. Si vous avez des réactions, tout ça, n'hésitez pas à nous les faire suivre. Et donc, Myriam, tu soulevais donc à l'heure actuelle aussi, parce que c'est aussi, j'ai l'impression, une grande habitude. On dit il y a des choses qui existaient dans les années 70, maintenant c'était une époque particulière, maintenant ce serait plus possible, etc. Et pourquoi pas envisager en fait de re-réfléchir ces pratiques-là à l'heure actuelle. Donc ça c'est des questions qu'on peut se poser, et j'ai l'impression que voilà qu'il y a il y a vraiment à réfléchir ce cadre légal, peut-être se battre pour faire évoluer aussi les lois, parce que il n'y a pas de raison, cette loi on la défend parce que nous on interdise l'avortement, c'est clair, mais cette loi elle n'est pas immuable, on peut la faire évoluer aussi.
Oui, c'est vrai que moi je voulais intervenir parce que je pense que d'un centre qui pratique des IVG à un autre, c'est très différent, et c'est possible aussi que dans certains centres en France, ça se passe différemment que dans les expériences que vous avez eues. Et moi, j'en ai pas connaissance, mais je pense que ce sera aussi intéressant de se pencher sur cette question-là. Certainement qu'il y a des endroits où des bénévoles participent à la prise en charge des femmes, où il y a peut-être des échanges un peu dans ce sens-là, un petit peu comme dans les années 70, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec ma mère, par exemple, qui elle a vécu un avortement aussi dans les années 70, où justement, à ce moment-là, elle a rencontré des femmes du MLAC qui étaient dans les lieux même où se pratiquaient les avortements et avec qui elle pouvait partager des moments de discussion, de solidarité, boire un café, revenir quelques semaines après, en reparler, etc. Donc je pense que ça se trouve, ça existe encore en France, moi je sais pas.
Mais je crois que raconter, entendre ton expérience Marion, ton expérience Myriam, des expériences d'isolement et tout, moi tout à l'heure j'avais envie de dire... J'avais envie de rendre ça plus généralement à la médecine en général. Moi, mes expériences hospitalières sont des expériences de solitude totale, d'incompréhension sur ce qu'on fait sur mon corps totale, de non-dialogue possible avec les médecins totale. Bref, des expériences assez négatives globalement avec, dans les hôpitaux. Donc c'est pour, et dû au manque de temps, blablabla. Depuis, j'ai rencontré plein de gens qui travaillent à l'hôpital qui sont adorables et qui te racontent comment c'est trop dur de travailler à l'hôpital. Et je les crois. Je reprends mes esprits. Bref, je voulais dire ça et je voulais dire quoi d'autre ?
Un petit texte peut-être.
Ben ouais, ça me paraissait pas mal en fait de bien montrer. Donc c'est un témoignage d'un médecin et qui dit alors je me souviens d'avoir fait des avortements, donc il parle dans les années 70, dans des chambres de bonne. Il n'y avait pas de lit, j'étais par terre à plat ventre. Pourtant, je pense que les conditions d'asepsie étaient rigoureuses. On disait « on peut travailler stérilement en dehors du bloc opératoire ». On pratiquait la technique « no touch ». Nous utilisions des canules stériles à usage unique. Les parois du vagin, comme le col de l'utérus, étaient strictement aseptisées, comme nos mains. Nous ne devions rien toucher avec la canule qui entrait dans l'utérus, sinon on en changeait. Après l'aspiration, nous vérifions que nous avions bien enlevé toutes les membranes, tout l'embryon, pour éviter les hémorragies liées aux rétentions placentaires. On était arrivé à une maîtrise étonnante. Il n'y a pas eu de complications. La femme savait quels médicaments prendre en cas de fièvre ou d'hémorragie. Il y avait toujours un numéro de téléphone de quelqu'un qu'on connaissait à l'hôpital qui était prêt à la recevoir. On savait où on pouvait envoyer une femme qui aurait besoin d'un curetage, d'où un sentiment de très grande tranquillité. Donc pour moi, ça reste... je me dis c'était valable il y a 30 ans, je vois pas pourquoi ça ne serait plus aujourd'hui.
Je souhaite réapporter l'attention sur la question du choix et de redire qu'il y a peut-être un moment d'émulsion aussi autour de questionnements qui d'un coup font qu'on transforme notre regard sur l'histoire telle qu'on nous l'a racontée, telle qu'elle est dite, telle qu'on a peut-être envie de la transformer et de réactualiser des choses dans nos existences. Et en même temps, je souhaite vraiment répéter qu'une femme qui a envie d'aller avorter à l'hôpital, de ne pas avoir d'informations ou... Et c'est super important
d'être
en fait.
Prise en charge.
D'être prise en charge complètement.
C'est des préoccupations.
Que je crois que c'est vraiment recentrer le débat sur aussi la question du choix et que du coup, chaque femme puisse aller vers là où elle a envie d'aller, comme elle le souhaite et comme c'est important ou qu'elle estime que c'est important pour elle.
J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai perdu mes esprits, c'était qu'on ne jugeait pas tous les praticiens. C'est très important pour nous d'avoir une vision critique et de pouvoir avoir le droit d'avoir une vision critique de l'institution médicale, toutes les institutions médicales. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on
ne reconnaît pas les compétences, l'attention, le suivi chouette qui peut être fait par plein de praticiens. Quoi.
Voilà, ça c'était important. On va devoir finir notre émission. Déjà, on a du retard, mais bon, c'est pas grave.
C'est la neige.
Et du coup, est-ce que moi je veux vraiment bien que si vous avez un truc à rajouter, quelque chose d'important, on a quand même quelques minutes. Je sais pas, Myriam, Marion.
Et oui, la brochure de l'intimopolitique, parce qu'on vous a dit pour le film, peut-être bientôt, au mois de mai, une projection à Grenoble. D'ici là, envoyez-nous des mails. De l'intimopolitique, c'est pareil. En gros, je pense qu'on va la diffuser donc, dans l'infoshop dégenré. Voilà, c'est dit.
Et
quelle annonce, c'est un scoop. en tout cas, ce qui ne facilite pas forcément l'accès à la brochure, je dirais...
On peut aussi la trouver un peu dans des différents lieux. Parfois, on peut aller la trouver à la Mazurka,
à Antigone,
au bas-côté. Dans plusieurs petits lieux que vous pouvez trouver en allant sur Indymedia Grenoble aussi, parce que parce que ça l'annonce. Je voulais aussi dire que peut-être pour approfondir les questions de l'avortement, de la contraception, il y a un bouquin, semble-t-il, qui est sorti de Maud Gelly et qui dit avortement, contraception dans les études médicales, une formation inadaptée. C'est aux éditions de l'Harmattan. Aucune d'entre nous ne l'a encore lu, mais il y a eu des échos comme quoi elle était fameuse et intéressante par rapport à tous ces questionnements qu'on peut poser en termes de formation, d'accompagnement et tout ça dans le milieu médical.
Donner aussi les références du livre dont tu parlais tout à l'heure, Marion, que moi j'ai lu un peu plus en entier, qui est vraiment très intéressant, donc de Marie-Annick Rouméas, à l'écoute du corps et de la parole des femmes, la pratique quotidienne d'une gynécologue. Donc c'est une gynécologue qui raconte sa pratique et comment ça s'inscrit dans sa vie.
Aux éditions Yves Michel.
Voilà, donc je le conseille vraiment. Et donc une info, et c'est là où vous pouvez notamment trouver... nous, la brochure et toutes les infos qui vont avec, la bouffe féministe, donc une bouffe féministe tous les mois, tous les premiers mardis du mois, au local autogéré 7 rue Pierre Dupont à Grenoble. Et donc la prochaine, c'est le mardi 6 février à 19h. Voilà.
On vous laisse.
Donc merci à nos invités et à la semaine prochaine pour une super émission sur les luttes féministes dans les années 70 en Italie.
Voilà, donc on se retrouve dans une semaine cette fois, c'est pas dans 15 jours, alors notez bien.
Et on finit l'émission avec une chanson qui ne date pas des années 70, mais qui est plus contemporaine, mais qui a du sens ce soir, puisque c'est une chanson qui parle de la transmission de mère en fille, notamment de la préoccupation des luttes féministes et de qu'est-ce qu'on peut se transmettre entre femmes, et c'est beau. Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Marie s'assoit sur son coussin avec un petit brin d'émotion. Ce bout de tissu qu'a l'air de rien navigue entre générations. Dès demain, Marie l'offrira à